Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face, viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu sois bourgeois ou prolo, vieux déjà ou un peu jeune, pas de problème, viens au bistrot, on y est bien et jamais tôt. On n'est pas là pour gratter, on est venu pour s'enivrer de connaissances comme des pots, mais pas de lézards dans nos bistrots. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. On y fait venir des grosses têtes, des gugus et puis des athlètes. On aime bien dans nos bistrots les gens qui ne se ressemblent pas trop. Peu importe les origines, quand le cerveau fait la cuisine, dans les petits plats, nos ciboulots, ce qu'on nous sert, c'est comme il faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots. C'est pas le diplôme qui nous motive, ce qui nous sert de locomotive, c'est d'être ensemble et bien plus beau grâce à cette université des bistrots.
S'enivrer, mais de savoir, s'abreuver, mais de connaissances, se griser, mais de questions. Voilà ce que vous proposent les moines de l'abbaye du Jouir. Ils reçoivent aujourd'hui en leur bistrot, pour le plaisir de tous, l'ami Claude Agège.
Quel est le titre et de quoi voulez-vous que je parle?
En Morvandieu. Alors bon, je pourrais commencer par dire que les langues régionales me sont aussi chères que toutes les autres langues et qu'il suffit d'aller au Pays Basque pour voir une langue dont l'exotisme est évident et frappant. Nous ne savons pas et nous ne saurons sans doute jamais d'où vient le basque. C'est une langue étrange, nous l'appelons ergative, pardonnez-moi ce terme technique, ou excusez-moi du peu, parce que c'est une langue dans laquelle on ne dit pas « le père a pris le livre » mais « aitak liburu ahartudu », c'est-à-dire « par le père, livre pris ». Autrement dit, ce qui est le sujet dans la plupart des langues indo-européennes, comme ouralo-altaïque, comme finno-ougrienne, comme sémitique, comme ce que l'on voudra, est ici un complément d'agent. Et c'est une langue donc dont on parle sous le terme très technique d'ergativité. C'est une langue extrêmement exotique, et comme je le disais, je ne sais pas comment les Basques ont fait pendant des millénaires, Ils ont réussi à préserver leur langue, évidemment en moyennant de nombreux emprunts au français comme à l'espagnol, mais ils ont réussi à maintenir leur langue en dépit de énormes pressions exercées sur eux et sur leur culture par deux grandes langues de culture très importantes qui sont celles d'États-nations très anciens, d'un côté comme de l'autre des Pyrénées. Bien, me voilà parti sur les langues régionales. Est-ce que c'est de ça que vous vouliez que je parle ? Mais enfin, quel est le sujet ? L'amour des langues, ça vous va ? Bien, votre serviteur en est habité depuis la plus petite enfance et importuna ses parents, que je chéris et que je continue de pleurer tant ils ont été bons et tant ils ont rendu heureuse mon enfance. Je suis un très mauvais gibier de psychanalyste parce que j'ai eu des relations parfaitement affectueuses avec mes parents sans l'ombre d'un conflit d'aucune sorte. Hélas, pour mes camarades psychanalystes qui me disent « tu es anormal » ou « tu es idiot ». Mais enfin... Ils m'ont structuré fortement par leur amour, et je répète que je continue de les pleurer, et notamment, ils ont accepté cette folie qui m'habite depuis la petite enfance. Je demandais non pas de soldats de plomb, ou, comme on commençait déjà d'en voir à l'époque, des jeux électroniques balbutiants, je ne voulais, dès que j'ai su déchiffrer quelques éléments de la langue principale de l'école qui était le français, que des grammaires et des dictionnaires, et peu après, je ne demandais que des enregistrements, c'était alors des cassettes ou des vidéocassettes, et ça devait devenir des CD un peu plus tard. Mes parents ont commencé par, au tout début, je n'avais que 4 ou 5 ans, par me montrer à un psychiatre qui leur a dit « l'enfant est parfaitement normal, c'est simplement quelque chose que je suis, mesdames et messieurs, et je souhaite à tout le monde de l'être comme moi, parce que c'est un secret de bonheur, un homme ou une femme habité !» Oui, un homme ou une femme habité, c'est quelqu'un... Non pas qu'il y a une monopassion ridicule et qu'il en oublie le reste du monde. Dans le cas des langues, c'est juste le contraire, parce que les langues nous ouvrent à tout le monde. L'amour des langues, c'est l'amour des gens, bien entendu. Mais c'est quelqu'un, un homme ou une femme habité, qui a une immense passion pour quelque chose, un domaine du savoir, ou d'ailleurs d'autres choses que le savoir, de l'activité. Ça peut être le vin, ça peut être... En ce qui me concerne, vous me pardonnerez pour ceux qui en ont, pas les animaux domestiques. Pour moi, aucun intérêt d'aucune sorte. Enfin bon. J'arrête là l'agression pour ceux qui les aiment. Pour moi, aucun intérêt d'aucune sorte. Quand ce ne serait que parce que, en dépit de ce que racontent les vieilles concierges qui s'en éprennent, et ou d'autres, il n'y a aucune espèce de communication d'aucune sorte avec eux. Mais enfin, bon. Je ne vais pas démontrer que c'est comme ça, parce que je sais bien que leurs amoureux me fourniraient des contre-arguments tout aussi grotesques les uns que les autres. Bien. Dès lors, j'en étais habité depuis l'enfance et je le suis toujours. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait un grand nombre de terrains, je continue d'en faire. On appelle terrain travail, en même temps que le lieu où il s'exerce, pour lequel on obtient du CNRS ou d'un autre organisme de recherche qui donne un minimum de financement à une recherche et pour lequel on se rend dans des lieux lointains où se parlent des langues en voie d'extinction ou menacées. Il est évident que jamais un linguiste n'irait faire de terrain sur l'allemand sur l'italien, sur le français, sauf peut-être sur, ici, certains dialectes du bourguignon, oui. Mais bon, en tout cas, sur des paroles tribales menacées d'extinction par la très forte pression de langues de vaste diffusion, mais de manière préférentielle, sur certaines des langues dont j'ai vu que vous arborez les étiquettes, je ne dis pas autrement que ça, je ne dis pas badge, je dis étiquette. Je vais venir tout de suite à ce sujet, sujet douloureux, dans lequel, comme certains me feront l'amitié de le savoir, je m'engage fortement. À savoir, non pas la défense, je ne suis pas un homme à défendre, mais la promotion d'une langue française et de beaucoup d'autres, gravement menacées par l'insupportable impérialisme d'une langue que je récuse d'un bout à l'autre. Et que, comme vous voyez, je ne nomme même pas. D'ailleurs, a-t-elle besoin que je la nomme, et surtout, a-t-elle besoin du soutien d'un linguiste ? Elle a bien assez de soutien comme ça, notamment, comme je le rappellerai tristement tout à l'heure, dans ce pays même. Bien. Et tout à l'heure, peut-être je l'oublierai, mais en tout cas, au moins, je l'ai annoncé. Quoi qu'il en soit, j'ai donc fait un grand nombre de normalisations, traînant mes guêtres à travers le monde, et cela a donné 6 monographies sur autant de langues. L'une, c'est au centre du Cameroun, sur le plateau de l'Adamawa. La langue s'appelle Mboum, le Tikar. L'autre, c'est une langue amérindienne de l'extrême ouest de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington et Oregon au nord-ouest des États-Unis. Elle s'appelle le Comox. C'est une langue amérindienne en voie d'extinction, bien sûr, gravement menacée, puisque les tribus indiennes, seuls authentiques américains, bien entendu, avant l'arrivée des Blancs envahisseurs et meurtriers et assassins, c'est l'origine même des États-Unis. on le veuille ou non. Je prends, évidemment, je demande l'absolution de tous ceux qui sont épris de ce grand pays démocratique et ami. Et donc, j'ai étudié une langue amérindienne menacée d'extinction. À vrai dire, depuis longtemps, je l'ai étudiée il y a une dizaine d'années, et elle est toujours menacée d'extinction, mais encore vivante tout de même. Et je suis ensuite allé étudier une langue au sud de l'île de Mindanao, la plus méridionale des Philippines, largement islamisée, alors que le reste, vous savez, ce sont des chrétiens, et quelques-uns qui sont bouddhistes ou animistes. Et cette île s'appelle Palau, et j'ai étudié le Palau, sur lequel j'ai aussi fait une monographie, un dictionnaire et une grammaire. Ensuite, je suis allé dans le monde arabe, naturellement pas l'arabe du même, parce que sous ces deux variantes, la littéraire, coranique, littérale aussi, on dit, il y a beaucoup d'adjectifs pour la caractériser, ou classique, et puis les autres variantes innombrables, aussi nombreuses que les pays arabes eux-mêmes, c'est-à-dire 3 ou 4 ou même 5, si on compte l'Égypte et la Mauritanie, à l'ouest, et 5 ou 6, en incluant l'Irak, le Liban, la Syrie, etc., si on prend l'Est. L'Est, c'est-à-dire en arabe, Sharq. Sharq, l'endroit dans lequel le soleil se lève, et l'autre, qu'on prononce bêtement Maghreb, Marb, c'est-à-dire endroit dans lequel Rarb. Rarb veut dire se coucher, et Ma, c'est le préfixe de lieu où quelque chose se passe, le Marb, francisé en Maghreb, c'est endroit où il se couche. Bon, j'allais pas étudier aucun de ces dialectes, ni le tunisien, en commençant par l'Ouest, ni le marocain, ni le mauritanien, ni l'algérien, ni le tunisien, ni l'égyptien, ni, en continuant là-bas, le libanais, le syrien, etc. J'ai étudié un dialecte arabe très peu étudié, très africanisé, très mélangé d'emprunts aux langues bantoues, etc., qui est l'arabe du Tchad, encore un de mes terrains. Un autre terrain, ce sont des dialectes chinois. Pas le mandarin lui-même, bien sûr, pas non plus le cantonais, pas non plus le shanghaïen, car ces trois grandes langues qui couvrent, comme vous le voyez, l'Est, le Centre, le Nord, le Centre et le Sud de l'immense Chine sont abondamment décrits depuis très longtemps et n'avaient nul besoin du chercheur à Gège pour être décrits de nouveau. En revanche, je suis allé dans les montagnes du Sichuan à l'extrême ouest, où on fait également une gastronomie très très épicée, certains le savent, et je me suis mis à l'étude d'un des dialectes de ce Sichuan qui appartient en fait à la branche du mandarin, c'est-à-dire des langues du nord de la Chine et non pas du cantonais, des langues du sud. Bon, voilà, ce sont les terrains que j'ai faits. Je suis prêt à en faire d'autres. Depuis très longtemps, je gémis pour obtenir une mission du CNRS au Caucase, car j'aimerais étudier les langues du Daghestan, plateau très compartimenté, très élevé, au climat extrêmement rude, et dans lequel se parlent des langues extrêmement différentes les unes des autres. Nous les regroupons, nous les linguistes, sous le nom de langue caucasique, mais c'est évidemment un aveu d'impuissance ou d'ignorance, car cette désignation est purement géographique. En fait, du point de vue génétique et même du point de vue typologique, ces langues sont extrêmement différentes les unes des autres. Bon, ce sont les langues du Caucase, dites caucasiques, jusqu'à ce que quelqu'un, peut-être votre serviteur, démontre qu'il n'y a aucun lien entre elles, je le répète, ni génétique, c'est-à-dire d'origine, ni typologique, c'est-à-dire de caractéristiques grammaticales, phonétiques ou morphologiques. Bien, un de ces jours, donc, si vous me réinvitez, cher monsieur Boschko, je viendrai avec des nouveautés sur les langues du Caucase. J'aurai été au Caucase, qui sera un terrain de plus, et je continuerai toujours à faire des terrains. La raison en étant très simple, c'est que j'ai décidé que chaque nouvelle année, eh bien, j'ai un an de moins et non de plus. Un jour, une de mes étudiantes malveillantes, mais enfin très bonne amie, m'a dit « Je vais dire sans doute un an de moins à vivre ». Je lui ai dit « Ah non, 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 un an de moins dans mon âge ». Étant donné donc qu'autrefois j'étais assez âgé et qu'aujourd'hui je commence à devenir un peu plus jeune, je vais, j'espère, aller, ma force physique me permettant, c'est pourquoi je n'ai pas cru bon de déjeuner, pourquoi devrais-je perdre ma ligne en passant mon temps dans des agapes ? Eh bien, je irai au Caucase et j'espère que j'en reviendrai, riche d'expériences nouvelles, plein d'usages et raisons, comme dit, à propos de quelque chose de tout autre dit différent, à propos de Langevin, le grand poète de la Renaissance, du Bélé. Alors voilà ce que j'ai fait, et naturellement, j'avais déjà, mais j'y ai puisé davantage encore, une immense passion pour les langues. Comme tout à l'heure, je le rappelais, cette passion des langues, c'est la passion des gens. Car évidemment, les langues ne sont pas des en soi, ce ne sont pas des univers dans lesquels on doit se clore, s'enfermer, ce sont des modes d'approche. Tout cela signifie que je crois à la force des langues, je crois à celle du langage. Je ne fais pas de cours, mais permettez-moi, puisque j'emploie ces deux notions, de le rappeler. C'est ce que je dis quelquefois en début d'année aux étudiants de linguistique qui ont eu la naïveté, la bonté ou l'ingénuité de prendre le cours de linguistique sans savoir ce que ce serait. En croyant qu'ils s'amuseraient. On ne s'amuse pas du tout. On aime simplement. On est passionné. Bon, on s'amuse un peu, bien sûr. Mais bon, c'est une discipline austère, bien qu'elle soit génératrice de volupté aussi pour moi. Elle est, j'espère, pour les étudiants qui en prennent le parti. Eh bien, je leur dis, début, je vous dis à vous-même, qui n'êtes pas mes étudiants, que le langage ne doit pas être confondu avec les langues.
Qu'est-ce que c'est le langage ? C'est une aptitude définitoire de l'espèce. Tandis que les langues s'en sont les manifestations historiquement et socialement situées dans tel ou tel pays et portées sur leurs fonts baptismaux et souvent comme des étendards d'affirmation par telle et telle nation. L'Europe de 1848 a tout entière été traversée par des mouvements de contestation de la pression politique énorme exercée par les trois grands empires, qu'étaient l'Empire ottoman à l'est, l'Empire du Tsar un peu moins à l'est, et les Habsbourg d'Autriche au centre et à l'ouest, et le Tchèque, le Hongrois, le Slovaque, le Roumain, le Bulgare, un certain nombre d'autres langues d'Europe centrale qui étaient tenues sous le boisseau par la pression de ces empires dictatoriaux se sont exprimées, et à travers elles, les nations de ces langues se sont exprimées du même coup. Donc les langues sont aussi des instruments de revendication nationale. Elles le sont à l'évidence pour les usagers de langues régionales menacées en France même. Elles le sont ailleurs, les Tibétains contre les Chinois. Quand on va à Lhasa, où j'ai été, on s'aperçoit, hélas, qu'il n'y a presque plus personne qui parle le tibétain. Les Tibétains sont si sinisés que leur langue, c'est le chinois. Il n'y a plus que les lamaseries, les endroits où vivent les lamas, dans lesquels on se sert du tibétain pour lire les textes bouddhiques, tout simplement, parce qu'ils sont écrits en tibétain. Il en va de même pour le kurde, c'est aussi une langue revendicatrice. Le malheureux, les kurdes, disons, comme vous le savez, l'inconvénient d'être à cheval sur au moins quatre frontières, ils sont en Irak, ils sont en Turquie, ils sont en Russie, ils sont en Iran, et par conséquent, l'unité politique des Kurdes dispersée entre au moins quatre pays, sinon cinq, rend très très difficile, est rendue très difficile par cette dispersion. Néanmoins, leur unité, c'est précisément leur langue, car il y a, en dépit de différents dialectes, le Kurmanji n'est pas la même chose que le Habuti, il y a des différences dialectales, mais autant que je sache, la compréhension peut passer, même si on s'identifie comme parlant tel ou tel dialecte dans l'entretien, et l'unique élément d'unité des Kurdes, à travers ces dispersions politiques si douloureuses, c'est évidemment leur langue. Bien, tout cela pour dire que les langues, ce sont des instruments de communication qui nous permettent de transmettre un message quand nous sommes émetteurs, locuteurs, comme on dit lourdement, mais bon, c'est notre terme technique en linguistique, et de le recevoir quand on est auditeur, l'auditeur et le locuteur étant évidemment en situation d'inversion réciproque. Tandis que le langage, c'est la caractéristique de l'espèce, tout à l'heure j'ai dit définitoire. Pourquoi définitoire ? Et parce que, mesdames et messieurs, nous savons très bien que les derniers anthropoïdes, qui sont encore simiesques, sont totalement identiques, simiesque veut dire deux singes, n'est-ce pas, qui sont des singes, sont totalement identiques, les derniers anthropoïdes qui ressemblent à des hommes, oïdes, le suffixe grec qui veut dire qui ressemble à, sont totalement identiques en termes morphologiques aux premiers hominidés qui sont déjà humains. Les derniers anthropoïdes, encore simiesques, sont les mêmes en termes physiques que les premiers hominidés qui sont déjà humains. Alors qu'est-ce qui les distingue ? Le langage, bien entendu. Pourquoi ? Et parce que les premiers n'ont pas dans leur génome, et les seconds ont dans le leur l'aptitude de langage. Bien avant qu'elle se résolve en langues différentes, car, mais c'est une hypothèse, étant donné qu'à moins de 1 200 000, date approximative à laquelle nous situons la naissance, entre gros guillemets, de l'espèce humaine, et le lieu est toujours le même, jusqu'à ce qu'on découvre en Australie ou ailleurs un autre, c'est cette région de l'Afrique, près des Grands Lacs, dans la Corne de l'Afrique, occupée aujourd'hui par la Somalie, par le sud, par le Kenya, par une partie de la Tanzanie et par le sud de l'Éthiopie. C'est là notre berceau, mesdames et messieurs, comme vous le savez tous et toutes certainement, et en attendant qu'on en trouve un autre, nos berceaux peuvent très bien nomadiser eux aussi, mais pour l'instant, c'est celui qu'on assigne à l'espèce humaine. Et la raison pour laquelle je suis pour l'idée d'un polygénétisme des langues humaines, c'est que nous savons très bien que dès l'apparition de l'espèce, quasiment moins de 1 100 000, c'est-à-dire à une telle profondeur vertigineuse de temps, 100 000 ans, c'est peu de choses, et c'est évidemment pas à l'espèce d'une vie humaine, qui n'est rien, même celle que j'ai décidée moi-même pour moi, c'est-à-dire au moins 150 ans, bien, ou si un peu plus même. Ça reste hélas rien, mais enfin, si on m'attribuait davantage, je serais très très content. Et tout cela pour dire que nous savons, il suffit du reste d'étudier la géomorphologie de cette partie du monde, de cet est de l'Afrique, que le rift, dont on voit encore quelques traces, a eu pour effet, dans cette époque qui est extrêmement proche de nous en termes d'histoire de la Terre, moins de 1 200 000, mais évidemment extrêmement lointaine en termes de la malheureuse petite vie humaine dans cette dimension, eh bien nous savons qu'une très grande faille a entraîné quelque chose de très grave, c'est que la niche écologique dans laquelle l'espèce humaine avait pu naître, grâce à un certain nombre de facteurs favorables, qui sont l'abondance des gibiers et l'abondance des points d'eau, est devenue une niche écologique mortifère, parce que tout ça s'est asséché, que tout cela est devenu complètement invivable, et ça a été remplacé par une savane à peine arborescente et ensuite par un désert. Et dès lors, nous sommes à peu près certains que l'espèce humaine, à peine née, a dû pour vivre, sans quoi nous ne serions pas là. Je ne serais pas là pour vous parler de langue et de mon amour des langues. Eh bien, en admettant que vous supportiez ce babil, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a échappé à la mort en s'en allant très loin, et c'est pour cette raison que la culture dite des galets aménagés, nous la retrouvons dans l'Homo Pekinensis, c'est-à-dire dans la vallée du fleuve jaune, le nord de la Chine d'aujourd'hui, la région de Pékin. Vous savez, la Chine étant pour l'essentiel une réunion de deux très grandes cultures différentes, l'une qui est la culture du fleuve jaune au nord, très fréquemment en voie d'assèchement, la plupart du temps, heureusement pour les gens, plutôt en voie d'inondation, et l'autre étant la culture du fleuve bleu au sud, ce qu'on appelle sottement le Yangtze-Kiang, et qui s'appelle en chinois Changjiang, c'est-à-dire le long fleuve, Chang, avec un ton montant, le chinois Tinangaton, non pas Chang, avec un ton descendant montant, qui veut dire le gouvernement, mais Chang et Chang. Tiang, qui veut dire le fleuve, avec un ton ponctuel, Chang, Tiang, nom chinois de long fleuve, le nom chinois de ce qu'on appelle le fleuve bleu dans la science occidentale. Bien, je ferme cette parenthèse, ils sont partis là-bas. Et c'est pour ça qu'on retrouve des galets aménagés, qui sont des toutes premières productions de l'art humain, extrêmement loin de l'Afrique, comme berceau supputé, probable de notre espèce, parce qu'ils sont partis pour ne pas mourir. Étant donné donc qu'il n'y avait plus les conditions que la niche écologique favorable à leur éclosion avait produites jusque-là. Bien, alors qu'est-ce que j'en dis en ce qui concerne les langues? Eh bien, j'en dis que contrairement à ce que les religions racontent, qui toutes naturellement, pour des raisons bien compréhensibles, nous présentent une langue unique dont toutes les autres seraient issues, je crois au polygénétisme et non au monogénétisme. Je pense que les langues humaines, quand elles apparaissent, c'est-à-dire bien après cette migration, sont déjà distinctes. Et par conséquent, je ne crois en rien que les langues humaines d'aujourd'hui soient issues, à mesure que l'on remonte dans le temps, comme le font les linguistes, d'une seule et même langue d'origine. Les religions, naturellement, s'en satisfont, parce que ça les favorise, étant donné que cette religion, cette seule et même langue, aurait été donnée, attribuée à l'espèce par la transcendance divine. En ce qui me concerne, je ne crois pas. Ceci qui est une pure hypothèse, je pense qu'il n'y a pas eu de langue idéale dont toutes soient dérivées. Il y a un polygénétisme des langues, à raison même de la dispersion des rejetons de l'espèce humaine quasiment dès son apparition sur cette terre. J'en veux pour preuve, bien que ce ne soit pas une démonstration totalement convaincante, l'immense diversité des langues du monde. Immense diversité. Cela me réjouit le cœur d'avoir vu que grâce à vous, il y a sur une table toute proche un nombre gigantesque de petits étiquettes, je ne dis jamais badge, qui portent les noms de très nombreuses langues. J'ai regardé certaines d'entre elles. Un grand nombre de celles que vous mettez ici sont ou bien en voie d'extinction ou bien déjà mortes. Qu'elles soient amérindiennes, qu'elles soient caucasiennes, qu'elles soient paléo-sibériennes, qu'elles soient africaines. D'autres sont, bien que je ne doute pas que l'on ait travaillé, qu'on ait consulté Internet et que l'on ait fait des recherches sérieuses, d'autres qui sont parmi ces étiquettes ne sont pas des noms de langues, mais de groupes ou de familles de langues. L'homotique, par exemple, tout à l'heure j'en faisais la remarque, n'est pas une langue, mais les langues homotiques près du lac Homo, pas loin de la région dont je viens de parler et qui est le berceau supposé de l'espèce, est un ensemble de langues et non pas une langue unique. Bien, toutes ces langues sont gravement menacées. Par quoi ? Eh bien, elles sont menacées essentiellement par la pression extrêmement forte qu'exercent sur elles les langues de vaste diffusion mondiale. Les langues de vaste diffusion mondiale, quelles sont-elles ? Je ne remonte pas au-delà de la Renaissance. Lorsque un vieux fou de marin génois finit par obtenir d'Isabelle, qui, avec son mari Ferdinand, elle de Castille et Louis d'Aragon, les caravelles dont il rêve depuis longtemps, elle les lui donne. D'après la petite histoire, ce que nous en savons, elle lui donne pour se débarrasser de lui. Elle en a absolument marre de ce vieux fou. Elle lui dit donc, je mime de façon simplifiant, « Voilà tes caravelles et disparais de ma vue, j'en ai marre de toi !» Il s'en va et il va découvrir les Indes. Mais ce n'était pas les Indes. C'est toute l'histoire. C'est notre histoire quasiment, et on peut même dire notre destinée elle-même, puisque nous sommes soumis à l'insupportable et gigantesque pression d'un des pays issus de cette entreprise. Dès lors, il s'en va, il ne commence pas par ce pays-là, il va plus au centre ou plus au sud, et il s'aperçoit au bout de peu de temps, il a probablement débarqué tout près de là où ces pauvres malheureux Haïtiens ont été tués par dizaines de milliers, c'est-à-dire dans ce qui est aujourd'hui Saint-Domingue. frontalière de Haïti, comme vous savez, et dans un endroit qu'il a appelé, évidemment, puisqu'il était commandité par les rois d'Espagne, Hispaniola. Seulement, voilà, sur ces traces vont venir un certain nombre de gens. Alors, eux, ce ne sont pas, comme lui, savants curieux, des navigateurs de génie, décidés à découvrir le plus grand nombre possible de nouveaux continents. Ce sont de cupides nobliaux de Castille, venant de pays extrêmement pauvres, la Castille centrale, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva déjà, et qui, conquistadores, sont suivis d'une troupe d'hommes bardés de métal que, malheureusement, Moctezuma, premier empereur aztèque qu'il rencontra, prennent pour des dieux, puisque, en plus, comme vous savez, par malheur, cette religion solaire, qui ne faisait pas de sacrifices humains par cruauté ou par barbarie, mais parce qu'elle croyait au soleil et lui offrait donc les âmes en l'extrayant, un peu cruellement, du cœur des prisonniers vaincus, des prisonniers sur les admirables pyramides que l'on voit encore dans la banlieue de Mexico et beaucoup plus au sud également, au Pérou, où il y a une autre civilisation qui est Inca, mais qui est aussi une religion solaire, eh bien, malheureusement, Cuauhtémoc avait consulté les devins vers 1515, à peine, avant l'arrivée de Cortés et de ses conquistadores, et dès lors, il y a une éclipse de soleil, il y a un certain nombre de signes. Évidemment, quand on l'a pas, quand on n'est pas un esprit objectif qui essaie d'être scientifique et que l'on croit à des signes, qu'on interprète tout, au lieu de voir l'univers tel qu'il est, tel qu'il se propose entre regards objectifs, quand on croit à n'importe quoi de signe ou qu'on attribue à je ne sais quelle transcendance divine, etc. Bon, il a vu donc des signes et il a par conséquent, au bout de quelque temps, quand il s'est aperçu de l'immense cupidité de ces barbares qui venaient tailler en pièces son empire, il a, un peu trop tard, hélas, dressé une armée pour répondre aux attaques de Cortés, mais au début, malheureusement, il a lié alliance avec lui, ou d'autres l'ont fait, et il n'a pas tout de suite compris quel était le but de ces cupides nobliaux de Castille. Peut-être que je dis des choses méchantes, je n'ai rien contre l'Espagne, mais enfin, en ce qui concerne les langues, puisque ce sont les seules choses dont je puisse parler sans dire trop de bêtises, nous savons que les langues indiennes qui ont précédé l'arrivée des Espagnols étaient, pour le seul Mexique, vite appelée Nueva España, Nouvelle Espagne. Et je ne vais pas parler du reste, l'Amérique centrale et toute l'Amérique latine, sauf le Brésil, vous savez, qui est lusophone. Eh bien, il y en avait avant l'arrivée des conquistadores et de Cortés et d'un autre infâme cupide plus au sud qui est Pizarro. Porché. Mais il faut le reconnaître, comme Cortés, militaire et administrateur de génie. Ces gens, par un système d'alliance, avec très peu d'hommes, certes diaboliquement équipés de fer, qui ont impressionné, qui ont fait prendre pour des dieux par les Indiens, étaient quand même un tout petit nombre. Et il fallait tout le génie, le sens de l'alliance, de la trahison, des négociations provisoires avec des alliés possibles, etc., pour réussir ce qu'ils ont réussi, l'un au Pérou, l'un au Mexique. Dans ce qu'ils appellent aujourd'hui le Mexique et d'autres au Pérou, ou en Bolivie, en Équateur, en Colombie, dans tout ce qui est aujourd'hui, ces quatre pays d'Amérique centrale, d'Amérique latine, pour tailler d'immenses empires sur les ruines d'empires très prestigieux qui avaient eux-mêmes déjà, juste avant l'arrivée des Espagnols, commencé de réaliser une grande unité. C'était l'histoire des Incas et c'était aussi celle des Aztèques, qui étaient même sur le point, dans la presqu'île du Yucatan, d'en faire autant avec les Mayas, l'autre grande culture du Mexique d'aujourd'hui. Bien, je ferme cette parenthèse pour dire que, au moins en ce qui concerne les langues, le domaine sur lequel je peux dire le moins de bêtises, eh bien, il y en avait plusieurs centaines pour le seul Mexique en 1515, date probable de l'arrivée des Espagnols, et en 1570, vers la fin du dernier, l'avant-dernier tiers du XVIe siècle, il en restait quelques centaines, peut-être 200. Autrement dit, les langues sont mortes par centaines et centaines, sinon par milliers, et les langues sont mortes avec les gens. Je considère, ce n'est pas le sujet, mais bon, c'est un problème sur lequel je me passionne, sur quel problème d'ailleurs ne me passionnais-je pas, mais en tout cas, je considère l'invasion de ce qui devait devenir Amérique latine, latine, parce que, au même moment que les rois catholiques reconquièrent sur l'islam, sur 8 siècles d'occupation musulmane, eux-mêmes, ils avaient conquis les Goths, les Visigoths en 710, 711, et ensuite la conquête, beaucoup plus tard, par les rois catholiques, achevée par la prise de l'émirat de Cordoue et de Grenade, admirable ville pleine de vestiges arabes, comme vous savez, en 1492, est en même temps le signal de l'assignation des caravelles à Colomb pour qu'il fiche la paix au roi d'Espagne et qu'il aille découvrir, encore une fois, l'Inde, paraît-il. Eh bien, que se passe-t-il dans ce contexte-là? Il se passe que les empires qui sont alliés vont aboutir à un génocide véritable, non seulement parce que les gens sont écrasés à la guerre, mais pas tellement, finalement, il en est moins en affrontant les Espagnols et leurs alliés, eux-mêmes indiens, bien sûr, qu'il n'en est mort de maladie et aussi de quelque chose d'affreux dont je ne peux pas ne pas parler, bien que ça ne concerne pas la linguistique, mais tout de même, c'est impressionnant, un nombre considérable d'Indiens de ce qui est aujourd'hui le Mexique et plus loin, plus au sud, le Pérou, sont morts parce qu'ils ont pratiqué le suicide et l'abstinence sexuelle. Quand une population pratique le suicide et l'abstinence sexuelle à très grande échelle et que par conséquent elle devient de plus en plus restreinte en nombre d'individus, cela donne une idée de la profondeur du désespoir où elle est plongée. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent plus croire en leur Dieu qui les ont trahis en leur donnant par la défaite, en les faisant battre, et par conséquent, affronter, agresser par cette invraisemblable agression qui est celle de l'arrivée des conquistadores, eh bien, ces gens ne croient plus à la vie, et par conséquent, ils cessent de se reproduire et ils suppriment leur vie. C'est une des raisons principales, pas la seule, pour laquelle il y a eu une si violente dépopulation à ce moment-là. Bon, bien sûr, après, ça s'est repeuplé, pour mille raisons, l'immigration est trop, et aujourd'hui, le Brésil a au minimum 90 millions d'habitants, sinon plus. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici en face de ce que peut être la mort des langues. Et pour fermer cette longue parenthèse sur l'Amérique latine, je voudrais revenir à ce qui est la pression exercée par d'autres langues, et en particulier par les grandes langues d'aujourd'hui qui ont pendant très longtemps été au contact de langues diverses des différents continents, essentiellement le français et l'espagnol lui-même, ainsi que le portugais, dans une moindre mesure l'allemand et l'italien, et en particulier aujourd'hui, bien plus que tout, l'anglais. Bien. Cette pression est redoutable. Pourquoi ? Eh bien parce que, dans le cas particulier de l'anglais et de sa pression, nous avons affaire à quelque chose qui est lié à la suprématie économique des États-Unis, pas seulement aux États-Unis, surtout eux, mais aussi d'autres pays anglophones industrialisés et riches et puissants, Grande-Bretagne, Australie, pour une certaine part, Afrique du Sud, Canada anglophone, autre que le Québec, qui est francophone, qui défend pied à pied naturellement le français, combien avec raison, et également, dans une moindre mesure, Nouvelle-Zélande. Bon, tous ces pays anglophones sont en même temps des pays riches et puissants, pour une partie d'entre eux, des pays très industrialisés. Par conséquent, la pression immense de leur langue, ça n'est pas celle d'une langue en soi innocente de tout, c'est celle de la langue de pays très puissants, très forts, et qui ont toutes les raisons de maintenir cette force par une pression constante exercée sur les autres langues. Bien.
Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po. Pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut.
Passons au français, si vous le voulez bien. J'ai tout à l'heure, en vous proposant rapidement une sorte de rapide chevauchée, et j'espère pas trop égocentrique, sur ma biographie de chercheur à travers un grand nombre de langues et autant de continents, j'ai fait allusion à la diversité immense des langues et tout à l'heure, à la faveur de questions de votre part, je répondrai volontiers sur les langues les plus diverses, dans la mesure évidemment de mes modestes connaissances. Modeste connaissance n'est pas ici une fausse modestie ni une coquetterie de vaniteux. Je ne pense pas être un vaniteux et vous allez voir tout de suite pourquoi. Je n'ai que de modestes connaissances pour une raison très simple. La condition du chercheur, du réel chercheur, ce que je crois être, c'est que, même quand ses connaissances ne cessent de croître, à mesure qu'il voit les mystères de son domaine se dissiper, du même coup, il en voit d'autres s'épaissir. C'est ça, la condition du chercheur. Ou pour le dire de façon plus imagée, à travers ce que me disait un vieux sage autrefois dans un pays arabe, il me disait « Mon fils, quand tu crois que tu sais, quand tu sais ça, tu crois que tu sais ça. Quand tu sais ça, tu sais que tu ne sais pas ça. » Et c'est absolument vrai, cette sagesse d'un vieillard inculte, mais plein de bon sens, dit les choses telles qu'elles sont. Alors que dirais-je donc de ces pressions énormes exercées sur les langues après avoir donné une idée rapide de celles à travers lesquelles j'ai traîné mes guêtres en nomadisant partout dans le monde et en ayant l'intention de continuer à mesure que je serai chaque année un peu plus jeune et par conséquent plus vigoureux encore et plus sûr de mes moyens. Eh bien, quelle est cette condition ? Elle est très simple. Prenons un exemple extrêmement élémentaire. Les langues algonquines, les langues iroquoises, les langues sioux, les langues wichita, etc. J'ai vu le wichita parmi les langues qui sont ici manifestées par une petite étiquette, sont menacées très violemment pour une raison élémentaire. Les parents indiens, les parents usagers de langues amérindiennes dans les structures tribales des États-Unis et du Canada, au lieu de transmettre leur langue indienne à leurs enfants, les envoient à l'université anglophone la plus proche. Pourquoi ? Et parce qu'ils considèrent, ils se sont persuadés que les langues indiennes n'assureront pas d'avenir professionnel et social, d'insertion économique à leur progéniture et par conséquent, de même, sans même que le pouvoir américain ou canadien les sollicite, ils décident quelque chose d'affreux, quelque chose qui est le principe même de la mort des langues, à savoir le défaut de transmission. Vous connaissez cela, mesdames et messieurs, ici même en France, quand un paysan occitan, flamand, pour la mince frange flamande entre Dunkerque et Bayeul, qui est une langue de France, un paysan francique mosellan, langue germanique, qui n'est pas l'alsacien, qui se parle entre Metz et la frontière luxembourgeoise, un paysan alsacien, occitan, pour aller plus au sud, basque, breton, et ainsi j'ai, dans le sens inverse, à celui des aiguilles d'une montre, fait le tour de ceux que le langage journalistique disgracieux et affreux appelle l'hexagone, bon. La France. Eh bien, quand un paysan d'une de ces langues régionales renonce à transmettre sa langue, en général pour les mêmes raisons que ceux des parents indiens des États-Unis et du Canada, parce qu'ils pensent que ça ne donnera pas d'avenir à ses enfants, à ses garçons et à ses filles, eh bien, c'est le processus de mort qui s'amorce. Le défaut de transmission et le commencement de la mort. Bon. Face à cela, quelles sont les solutions ? Alors, laissez-moi en venir au cas particulier du français. Et j'y viens pour la raison suivante. C'est que peut-être vais-je orienter mon discours en fonction de ce que je crois avoir perçu depuis que je suis là. Vous êtes différents de ceux auxquels il m'arrive de m'adresser et qui me paraissent mériter ce que j'avais envie de dire de ces vers. Il me semble que vous ne le méritez pas, car apparemment, l'existence même de ce cercle de culture, le goût de la lecture que deux étudiantes qui tout à l'heure, enfin deux filles qui m'ont piloté dans l'abbaye me laisse penser, à savoir des cercles de lecture où on apprend aux gens le goût, l'amour des livres, me laisse penser que vous faites exception dans ce paysage assez triste, assez amer à mes yeux, que je perçois en France, peut-être à tort, après tout, étant une nature très optimiste, je ne demande qu'à être démenti et à qu'on m'assure que je me trompe complètement. J'ai l'impression que les Français ne lisent pas ou ne lisent plus et que par conséquent, la déculturation est très forte dans ce pays. Mais enfin, quand je rencontre des libraires, et je rencontre fréquemment, ne serait-ce que ceux qui vendent les bouquins qu'on me demande de dédicacer, j'ai des voix disparates. Les uns me disent « mais non, détrompez-vous, c'est pas vrai du tout, les Français lisent beaucoup ». D'autres me disent « vous avez raison, les Français ne lisent plus ». Bon, quoi qu'il en soit, j'ai affiné un certain nombre de termes et de réparties que je dirige vers les gens. Autrefois, j'exprimais ma fureur dans un wagon de train, par exemple, ou dans une antichambre de médecin, de dentistes, où les gens attendent, ne font rien, n'ont pas de livres, et par conséquent font ce que l'on fait quand on n'a pas de livres, ils vous dévisagent. Et évidemment, quand ils sont deux ou trois, ils commencent à dire des choses sur vous, et comme ils ne savent rien de vous, comme ils n'ont pas la moindre clé de votre vie, ils disent n'importe quelles idioties, naturellement. Bon. Alors autrefois, je réagissais violemment contre cette absurdité de gens qui dévisagent à raison même du fait qu'ils n'ont rien à lire, mais maintenant, j'ai mis au point une façon plus douce, plus gentille, et je dis ceci. Oh, vous devez être très malheureux sans lecture. Au début, les gens se demandent quel fou leur dit ça. Et puis, au bout de quelques temps, ils comprennent. Permettez-moi une petite parenthèse sur un autre sujet que j'ai abordé. Et j'espère que ceux qui aiment ce dont il va être question ne m'en voudront pas. Autrefois, énervé par l'amour des animaux domestiques, qui est, avec les heures qu'on y investit, autant de perdu pour la lecture, ça me paraît évident, je réagissais violemment. Maintenant, je réagis de façon bien plus douce, avec le même ton doucereux que pour les gens qui ne lisent pas, et je dis, quand je vois un propriétaire de chien prenant un air absent, parce qu'il sait bien qu'il est en train de faire maculer des déjections de son animal, les trottoirs qui appartiennent à tout le monde, je dis maintenant, avant j'agressais, vraiment, en prenant le risque d'être agressé moi-même, mais bon, tellement ça m'énervait, maintenant je dis, oh, ça serait tellement bon en steak. Oui. Alors, les rares fois où un dialogue s'engage avec des gens qui ne sont pas trop idiots, les gens me disent « Mais enfin, pourquoi vous dites ça ?» Je lui dis ben, « Écoutez, 1,5 milliard de Chinois, et ça, j'ai vu ça, n'importe qui va en Chine le voit, la viande de chien est chère et appréciée. Et les Chinois la considèrent comme excellente. Et lorsque les gens sont stupéfaits, mais ne réagissent pas par la violence, parce que moi-même, j'ai été doux, en tout cas, j'ai essayé de faire semblant de l'être, eh bien, je leur dis, eh oui, enfin, je ne m'investis pas professeur de philosophie ou de culture, mais je leur dis, oui, en me disant, après tout, c'est mon métier de transmettre à des gens ce que je crois vrai, relativité des cultures, madame ou monsieur. Vous voyez, vous êtes avec votre chien que vous aimez, un Chinois débarque ici, qu'est-ce qu'il va dire ? Oh, qui sont drôles vraiment, ces Français-là ? Ce qui, pour moi, est animal de boucherie, ici, c'est animal de compagnie. Pourquoi ? Relativité des cultures, évidemment. Je ferme cette parenthèse sans avoir intention d'agresser davantage. Ceux qui aiment les chiens, je les respecte profondément. En ce qui me concerne, je le répète encore, pardonnez-moi, je ne trouve ni au chien, ni au chat, ni à aucun animal domestique, sauf ceux qui servent, peut-être encore dans ce pays où j'ai vu tant de belles campagnes, à la vie et qui sont fonctionnels, ou dans des pays très froids où le chien est un élément de traction des traîneaux, ceux qui ont un rôle économique, il est évident que je m'incline avec respect, pas devant les chiens, devant leurs propriétaires, tandis que ceux qui sont uniquement des animaux d'apparat, c'est-à-dire avec lesquels on noue je ne sais quelle relation monstrueuse, en fait, puisque nous nous sommes, par notre histoire, tout à l'heure j'y faisais allusion, éloignés de plus en plus de l'espèce animale. L'espèce humaine est une espèce animale, bien sûr, mais elle se différencie des autres par le fait que certains l'imputeront à une transcendance divine, moi pas du tout, par le fait qu'à un certain moment, la voûte crânienne a commencé, justement, en s'éloignant même morphologiquement des vernis anthropoïdes encore simiesques, par devenir de plus en plus immense, car elle devait loger un cerveau de plus en plus vaste, et ce cerveau, il commençait à avoir dans ses différentes zones différentes aptitudes, dont c'est le langage présent depuis la naissance, mais qui s'est développé immensément, et évidemment, à raison de cela, l'espèce humaine a pris un départ de plus en plus vertigineux en s'éloignant des autres espèces animales. C'est pourquoi, on me pardonnera, on va croire que c'est obsessionnel chez moi, ça ne l'est pas, une des raisons de ma stupeur devant le culte des animaux domestiques, c'est, mais c'est un culte qui nous ramène à nos origines barbares. Quel intérêt ! Nous sommes devenus nous-mêmes en nous éloignant de tout cela ! Et quand on me dit, mais non, il y a beaucoup d'intelligence, de sensibilité, je leur dis oui, parce qu'il y a un mimétisme naturellement. Évidemment, votre chien finit par vous ressembler. Si vous êtes complètement idiote, il vous ressemblera à la bêtise. Si vous êtes intelligente, il aura une forme mimétique, bien entendu, de votre manière intelligente, entre gros guillemets, de voir le monde. Bien, je ferme cette parenthèse et je vous promets que je ne parlerai plus des chiens ou des chats. Bien, je suis amené à en parler parce qu'évidemment, l'aptitude de langage qui caractérise les hommes et les femmes ne caractérise aucune espèce animale d'aucune sorte, ou plutôt celles des espèces animales qui ont quelque chose de vertigineusement distant, mais d'approchant des espèces humaines, ce sont les dauphins et les chimpanzés, c'est-à-dire les animaux domesticables, mais non domestiqués, dont je verrai avec bienveillance cette fois qu'on en est le culte, mais qui me fera le plaisir d'avoir chez lui un dauphin ou un chimpanzé ? Eux, ce sont des animaux intelligents. Qui a-t-on ? Des animaux stupides. Enfin, je ferme cette parenthèse. Bien. Alors, nous avons donc affaire ici à une pression immense exercée par l'anglais. Que se passe-t-il avec cette pression immense ? Eh bien, il se passe que les grandes langues de l'Occident, pour ne rien dire des langues tribales et régionales d'autres parties du monde, sont elles-mêmes menacées. Je veux dire que l'espagnol, l'italien, l'allemand, le français sont exposés, tout autant que des langues de moindre diffusion mondiale et de moindre capacité de résistance, à l'énorme pression de l'anglais. Mais les choses vont plus loin dans le cas de la France. La raison pour laquelle tout à l'heure j'ai annoncé que je serais moins offensif que je n'avais intention de l'être, parce que je vois bien que vous êtes un public de gens avides de culture, ce qui me touche et que j'aime profondément, c'est que je n'ai pas besoin peut-être de le rappeler avec vivacité, mais je constate, peut-être que ce n'est pas votre cas, que la France est devenue, au fil du temps, le pays du monde où l'on aime le moins le français. Hélas, oui, mesdames et messieurs, on en est là. Quand je cite autour de moi, ou même quelquefois à mes étudiants, avant que nous ayons fait connaissance et qu'ils aient commencé à, peut-être pas à adopter, mais au moins à prendre connaissance de mes idées, quand je leur cite l'OIF, quelqu'un connaît-il ce sigle ? L'OIF, personne ne sait ce que c'est. L'Organisation internationale de la francophonie. Quand je cite l'OIF, très fréquemment, même à des gens de moyenne ou même de bonne culture, ce sigle est totalement opaque Les gens n'en ont aucune idée. Ils se contrefichent de tout ce que l'on fait pour la promotion, je ne dis jamais défense, ce n'est pas dans ma nature, pour la promotion du français. Ils s'en contrefichent et ils n'en sont pas informés. Permettez-moi de me citer, ceux d'entre vous qui lisent Le Monde ont pu voir le 9 mars, il y a un peu d'une semaine, un article de votre serviteur où je parlais de cela sous le titre « Identité nationale et langue française ». Que se passe-t-il ? La langue française est évidemment une composante nucléaire de notre identité, mais les gens s'en fichent complètement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une telle fascination de tout ce qui est américain qu'on finit par en oublier que la culture et la langue française sont ceux-là même qui a dessiné notre profil culturel. On l'oublie en ne rêvant que de s'américaniser. Je ne caricature qu'à peine, je crois que, hélas, c'est le cas d'un grand nombre de Français, sauf les Françaises et les Français qui sont un peu plus éclairés et qui, hélas, sont une minorité. Mais une minorité, bien sûr, appelée à s'étendre. Je ne rate pas une occasion d'y contribuer modestement en parlant comme je le fais devant vous. Bien. D'où cela vient-il ? Eh bien, ça vient non seulement d'une fascination pour tout ce qui est américain, fascination qui, aujourd'hui, est en train de franchir véritablement les limites du grotesque, du caricatural. Ça vient aussi d'autre chose. C'est que, comme le dit volontiers une certaine élite, je mets le mot entre guillemets, à l'égard du, de nouveau entre guillemets, français colonial, un certain nombre de Français ne se sont pas dépris de l'idée que la diffusion du français, ou sa prétention à être une langue de, d'importance mondiale, est celle d'une langue qui a accompagné des épisodes de domination coloniale inacceptable. Bon. Soit, ce n'est pas complètement faux, du point de vue historique, mais cette vision n'oublie qu'une chose et dont l'importance est de taille. Et c'est pour ça que je viens de vous parler à l'instant de l'OIF. C'est qu'au moment où le gouvernement, il se trouve que c'était celui de De Gaulle, au début de la décennie 1960, a entrepris des entreprises de négociation d'indépendance avec les États de ce qui était encore l'Union française, la suite de l'empire colonial qu'on appelait sous la Troisième République sans aucune fausse honte empire colonial, puis peu à peu on a employé un nombre croissant d'euphémismes évidemment, et bien à partir du moment où les négociations d'indépendance ont abouti à l'indépendance, un phénomène très étrange s'est produit, mesdames et messieurs. C'est que ceux-là même qui avaient combattu la France afin d'accéder à l'indépendance, et notamment naturellement en prenant les armes contre elle, mais aussi comme l'a dit un d'entre eux, le plus éminent, Léopold Sédar Senghor, l'ex-président du Sénégal, en retournant contre la France ses plus belles armes, c'est-à-dire essentiellement sa culture et sa langue, ceux-là même, Senghor que je viens de citer, mais aussi Bourguiba de Tunisie, mais aussi Hamani Diori du Niger, mais aussi Charles Helou du Liban, et le seul encore vivant, tous sont morts, bien qu'âgés et malades, le prince Norodom Sihanouk du Cambodge, tous ces hommes d'élite se sont francisés profondément par leur culture, par leurs études et aussi par cette chose capitale pour la isation, ici francisation, à savoir le mariage. C'est évidemment capital, c'est un événement de la vie privée qui a une incidence énorme sur la vie politique. Ils ont tous épousé des femmes françaises et élevé leurs enfants en français en donnant, d'une certaine façon, une forme d'exemple à leurs administrés. Tous ces gens ont porté sur ces fonds baptismaux l'entreprise de promotion du français. De sorte que la promotion du français, jusqu'à aujourd'hui, dans le monde moderne, puisque les gens de l'OIF se réunissent tous les deux ans, l'an dernier, il y a deux ans, en 2008, c'était à Québec, où j'étais, avant, c'était à Bucarest, en Roumanie, Bucureștiu, pour l'appeler de son nom roumain. Le prochain, en 2011, je crois, ce sera, ou non cette année même, ce sera, si j'ai bien compris ce qu'ont dit les organisateurs, probablement à Antananarivo, c'est-à-dire à Madagascar. Autre pays, naturellement, faisant partie de la francophonie. Qu'est-ce qui s'est passé ? De Gaulle a été invité à ces assises, nous sommes au tout début des années 1960. Il s'y est rendu très soigneusement, précautionneusement, et il aurait prononcé un très bref discours en disant « La France, à laquelle il s'identifiait volontiers, la France voit d'un très bon œil votre entreprise, mais vous apporte sa solidarité, et puis il a tourné les talons. Pourquoi ? Parce qu'il a très bien compris que si, dans le contexte de la décolonisation, il s'était inséré de manière véritable, indiscrète, insistante, dans ce qui commençait d'être une promotion du français, par ceux-là même qui avaient combattu la France avec cette arme-là, et d'autres armes plus concrètes, s'il le faisait, il serait immédiatement suspecté de saisir comme un levier de néocolonialisme l'entreprise francophone, et par conséquent, toute son œuvre serait vouée à l'échec. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, par un paradoxe de l'histoire, la lutte francophone est une affaire complètement autre que française. Elle a été inventée, initiée, et elle continue très largement d'être portée par 70 pays, dont la France, naturellement, aujourd'hui fait partie, parce que beaucoup plus tard, plusieurs décennies après, la France a compris qu'elle ne pouvait pas être absente, évidemment, d'une entreprise de promotion qui est tout entière centrée sur la langue dont la France est le berceau. Le berceau. De moins en moins, on nous dirait que c'en est le possesseur légitime. C'est simplement le lieu dans lequel le français est né. Et puis c'est tout. D'autres pays s'en sont saisis avec pratiquement plus d'amour encore. Bon, alors dans ce contexte-là, lorsque l'on entend certaines élites françaises se déprendre du français ou en parler avec condescendance ou avec mépris, quand ce n'est pas avec arrogance, parce que c'est une langue coloniale, la chose qu'on leur répond, que je leur réponds, ça m'arrive fréquemment, c'est « mais écoutez ». À la limite, même sans me mettre en colère, j'essaye de comprendre, vous pourriez avoir raison, mais comment expliquer, si vous aviez raison, que ce soit précisément des pays coloniaux jusqu'à peu, à peine décolonisés, qui soient les artisans de l'entreprise de promotion du français? Ce sont eux, et eux-mêmes, et pas la France, qui, encore une fois, au début, s'est tenue tout à fait à l'écart, parce que le gouvernement de De Gaulle, au pouvoir à l'époque, avait compris qu'il n'y avait aucun intérêt. Dans ces conditions, nous voyons bien que, aujourd'hui, par une situation très triste, très lamentable, mais qui est celle que nous voyons, qui pourrait changer. Je répète cette formule paradoxale, le pays dans lequel on aime le moins le français, eh bien c'est la France. En revanche, on l'aime dans les pays du Maghreb, on l'aime dans un grand nombre de pays africains, d'Afrique subsaharienne, le Maghreb étant d'Afrique au-delà du Sahara, bien sûr, on l'aime dans un grand nombre de pays d'Asie du Sud-Est, qui ont été aussi des terres de présence coloniale et souvent fondées vraiment sur le profit le plus étroit, à savoir essentiellement le Cambodge et le Laos, dans une moindre mesure le Vietnam, et on l'aime aussi dans un certain nombre de pays du Proche-Orient et d'Europe de l'Est, les principaux qui ont une vieille tradition francophile et francophone étant le Liban pour un bloc et la Roumanie pour l'autre. Dans ces conditions, la France est pays qui est le berceau historique, n'est pas du tout le pays où on aime le plus le français. On ne songe qu'à s'américaniser, au moins pour les élites. Et depuis peu, le ministre des Affaires étrangères a proposé la création, je ne sais pas si les deux assemblées représentant le peuple, la nation, ont ratifié cette proposition, mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas s'il a déposé au bureau du Palais Bourbon son projet, c'est de fonder un institut Victor Hugo. Mais cet institut Victor Hugo, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse hâtive, précipitée de la France à l'immense volonté de faire répandre dans le monde entier sa langue, par sa identité par sa langue, qui est celle de l'Espagne à travers l'Institut Cervantes, du Portugal à travers l'Institut Camões, Camões c'est le plus grand écrivain portugais de la Renaissance, de la Chine à travers les instituts Kongfutsu, Kongfutsu, c'est son nom chinois, latinisé en Confucius. Et enfin, de l'Institut Goethe, en ce qui concerne l'allemand et l'Allemagne. La France répond tardivement et pressée par l'événement par l'Institut Victor Hugo, alors que le paradoxe, c'est que ces instituts de au moins 4 pays essayant de répandre leur langue et leur culture en dépensant beaucoup d'argent pour cela, parce que c'est leur identité, sont une réponse à laquelle on fait une contre-réponse par le projet d'Institut Victor Hugo tout à fait récent, mais qui sont elles-mêmes une réponse à ceux qui existaient bien avant et qui étaient l'époque heureuse, aujourd'hui lointaine, mais qu'on pourrait retrouver, j'espère, où l'affaire politique principale en matière de langue, c'était le français. Le français était très fortement porté comme une langue à vocation mondiale, ce qu'elle est naturellement. Or, malheureusement, si l'Institut Victor Hugo essaye de répondre en réparant un petit peu ce que je vais vous dire d'indigne, c'est parce que, à mesure que le temps a passé et qu'on s'est américanisé de plus en plus, je le sais parce que je suis très fréquemment invité dans les ambassades, ou plutôt dans leurs services culturels, les ambassades de France, qui ont notamment pour mission, à travers les services culturels, de défendre et de proposer, eux, ils défendent, moi je promeus, la culture française et la langue française, voient leurs subsides, voient leurs subventions décroître comme peau de chagrin, de moins en moins d'argent. Pourquoi? Eh bien parce que les gouvernements, et c'était le cas déjà avant ceux qui sont aujourd'hui au sommet de l'État, ont de plus en plus désinvesti par rapport à l'entreprise de promotion de la langue. J'irai jusqu'à dire, mais sans citer personne, que je crois même avoir entendu un ministre français dire que le français est une langue en déclin. Oui, un ministre français dire que le français, dans le contexte actuel, je ne citerai pas, mais certains événements de demain pourraient apporter une réponse. Bien. On a affaire ici à un désaveu public au sommet de l'État de l'entreprise de promotion du français, alors même que le reste du monde fait des efforts. Monsieur Abdou Diouf, successeur à la tête du Sénégal du grand, de l'illustre, de l'immense Léopold Sédar Senghor, et aujourd'hui secrétaire général de la francophonie, disait, peut-être quelques-uns d'entre vous ont-ils sur Canal+, vu l'émission hier dans laquelle j'étais à côté de lui, il disait dans cette émission, et il m'a souvent dit moi-même au cours d'entretiens privés, « Je suis sans arrêt saisi par des pays étrangers qui s'intéressent aux Français, qui voudraient adhérer à l'OIF et qui me disent « Bon, que faire ?» pour devenir, nous aussi, membres, ça nous intéresse, il y a quelque chose là, il y a un message. Les derniers à le faire, ce sont les Français eux-mêmes. Ils s'en foutent, ou plutôt, je répète ce que j'ai dit, ils sont fascinés par ce qu'il y a américain et du français lui-même, ou ils le déconsidèrent comme langue coloniale, absurdité contredite par les faits, ou ils s'en désintéressent par manque d'informations. C'est ça la situation. Dès lors, je le répète, il faut savoir exactement quels types de combats sont à mener. J'ajoute que l'entreprise de promotion du français n'est pas du tout une entreprise qui se propose, qui veuille se donner pour but de supplanter l'anglais. On n'est pas si imbécile. Il est évident qu'on ne mène pas de combat où on sera d'avance vaincu. Il n'est question en rien de supplanter l'anglais. Cette lutte n'a pas de sens. Il est question, bien plus finement, de proposer un autre choix. Et c'est ça que perçoivent les adhérents des 70 pays aujourd'hui membres de la francophonie et de ceux qui demandent leur adhésion tout récemment et qui continuent de le faire sous nos yeux. Ce qu'ils veulent, c'est par rapport au rouleau compresseur de l'anglo-américain, un autre choix. Et le français le propose. Et c'est, mesdames et messieurs, ce sera là mon dernier mot, dans cette mesure même que, par un autre paradoxe, s'ajoutant à celui de la profonde désaffection vis-à-vis du français, des Français eux-mêmes, par un autre paradoxe, aujourd'hui, la francophonie, loin d'être une entreprise de promotion du seul français, est la seule entreprise aujourd'hui dans le monde de promotion de la diversité des langues. C'est cela que ça signifie. En profondeur, bien sûr, le français a tout à y gagner, mais c'est moins le français en tant que tel, de manière franco-française, qui doit être le bénéficiaire de l'entreprise francophone, c'est précisément la diversité dont le monde anglophone se moque totalement, n'ayant pas d'autre intention que de répandre partout l'anglo-américain. Voilà, mesdames et messieurs, il n'y avait pas d'introduction, par conséquent, à mon grand regret, il n'y a pas de conclusion. Merci.
Merci. C'est pas le diplôme qui nous motive, ce qui nous sert de locomotive, c'est d'être ensemble et bien plus beau, grâce à cette université des bistots.
Cette émission vous est offerte par le Théâtre Éprouvette et l'Abbaye du Jouir. Vous pouvez la réécouter sur le site internet www.théâtreéprouvette.fr.